Tous les secrets de la farine avec les boulangers du Rhône sous mention Nature et Progrès.
Bonjour à tous, merci d'être venus. Il y a d'autres personnes qui arrivent encore. J'espère qu'il reste assez de place pour les dernières arrivants. Merci d'être venus à cette conférence Nature et Progrès qui traite de la farine au pain, tous les secrets que vous avez toujours rêvé de savoir. Je vous fais juste un petit aparté. Nature et Progrès, c'est une association qui a été créée en 1964, donc il y a 51 ans maintenant. Un des premiers cahiers des charges de l'agriculture bio, c'est Nature et Progrès qui l'a mis en place. Et donc cette association aujourd'hui rassemble des consommateurs, des professionnels en France, en Belgique, au Portugal. En France, nous sommes 2000 adhérents, en Belgique à peu près 7000. Et donc, tous ces adhérents, on discute autour de quel label pour les produits bio aujourd'hui. Voilà, donc notre groupe local, le Rhône, a la chance d'avoir pas mal de boulangers. Et donc aujourd'hui, ils vont vous parler du cahier des charges Nature et Progrès en boulangerie et de la manière dont eux voient la fabrication du pain sous mention Nature et Progrès. Merci. Vous avez vos micros pour parler. Et donc après questions-réponses, je vous ferai passer le micro si vous voulez poser des questions aux quatre boulangers ici présents.
Bonjour. Alors, pour commencer, on peut présenter d'abord nos boulangeries. Donc, avec Rachid, on est membre de la coopérative La Micyclette, qui est donc dans le Lyon, dans le 8e. Et on est 6 salariés. Et donc, on travaille... Donc, on est Lyon 8e, j'ai dit. On travaille avec un four à bois, tout au levain, et on livre... des épiceries, on a une petite boutique ouverte sur place, on livre aussi des AMAP, des collectivités, des restaurants. Voilà, on est ouvert depuis, ça fait 4 ans. Voilà. Et je vous fais passer, j'ai ramené des petits bouts de pain pour ceux qui ont un creux à déguster.
Je vais le faire.
Oui, bonjour. Moi, donc, je m'appelle Jean-Marie Fournier, j'ai fait un petit changement professionnel il y a 6 ans environ. De l'informatique industrielle, enfin plutôt dans une grande boîte, je suis passé à la boulangerie. Voilà, donc j'étais déjà bien conquis auparavant par les façons de travailler des producteurs Nature et Progrès. Voilà, je suis à Saint-Priest, je travaille comme le cahier des charges Nature et Progrès nous le demande, au levain, pétrissage lent. J'ai des clients type AMAP, un magasin et des jardins de cocagne. Voilà.
Ouais, bonjour, Didier Grayel, donc La Graine au Pain. Moi, je viens du département voisin, donc de la Loire, un petit village à côté de Feurs. Donc, moi, je suis boulanger depuis 10 ans, Nature et Progrès. Donc, moi, mon moyen de distribution, c'est de la livraison à domicile. Donc, les clients, 90% de mes pains sont livrés directement chez le consommateur. Voilà, donc, pareil, hein, je respecte le cahier des charges Nature et Progrès. Je travaille au levain, cuisson au bois, pétrissage manuel. Enfin, on va vous expliquer un peu plus en détail.
On va commencer à essayer de parler du levain. Donc, le cahier des charges Nature et Progrès recommande de s'orienter vers une production uniquement au levain. Dans quelques cas, on peut utiliser de la levure, mais on a tous comme objectif d'utiliser uniquement du levain naturel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le levain naturel, c'est une culture de micro-organismes naturels qui est faite à partir d'eau et de farine. Et la fermentation obtenue avec un levain naturel n'est pas la même que celle obtenue avec la levure dite de boulanger, celle qui est un petit cube comme ça pour vous et comme ça pour les boulangers. La fermentation est beaucoup plus lente au levain. On a un pain qui est du coup beaucoup plus digeste, qui va se conserver, qui aura du goût et en même temps qui apportera plus qui permettra au corps humain en tout cas de profiter des minéraux qu'on trouve dans la farine. Ce qui n'est plus le cas avec la levure. Avec la levure, la fermentation est beaucoup plus rapide. Elle est alcoolique au lieu d'être lactique. Et de par là, on a une perte de l'assimilation des minéraux au moment de la digestion dans notre corps à nous. Voilà. Alors, à la levure, évidemment, on a des pains qui vont plus vite, qui sont plus facilement mécanisables. On peut plus facilement automatiser certaines tâches, ce qui est moins le cas avec le levain, puisqu'il faut quand même un peu surveiller l'évolution de la pâte. Et du coup, l'industrie a intérêt effectivement à ce que la levure soit utilisée, puisque c'est beaucoup plus facile de... Bon appétit. C'est beaucoup plus facile de faire du pain à la levure. D'un point de vue technique, il y a moins de, je dirais, de savoir-faire dans les mains, enfin dans le ressenti de la pâte.
Ce que je peux rajouter sur le levain, c'est aussi que c'est aussi une réappropriation du savoir-faire par le boulanger, parce que la levure, on est dépendant d'un système industriel en fait, qui est, les levures, elles sont fabriquées à partir de résidus de l'industrie sucrière, voilà, donc avec des conditions qui ne sont pas forcément très transparentes pour ceux qui achètent la levure et ensuite ceux qui achètent le pain, alors que sur du levain, c'est fabriqué chaque jour par le boulanger en rajoutant simplement de l'eau et de la farine au levain qui est déjà existant, quoi. Voilà. Donc c'est aussi une autonomie.
Voilà. Il y a aussi une typicité du levain, c'est-à-dire que le levain se développe bien par rapport au local où il se trouve et par rapport à la pratique aussi du boulanger. Donc du coup notre levain à la Miss-Clette sera différent du levain des deux collègues qui sont là, et du coup ça apporte aussi une diversité en termes de goût, de rusticité et de rendu au niveau du pain, quoi.
Et effectivement, on a avec la Miss-Clette et moi et un ou deux autres boulangers un lieu de vente commun qui s'appelle l'épicerie équitable, et qui nous prend du pain chacun un jour différent. Et il me dit bien, l'épicier, vous avez des pains très différents, alors que vous avez, pour certaines farines, des origines identiques. Et on arrive quand même à avoir des pains très très différents avec la même matière première qu'est la farine, quoi.
Alors qu'à la levure, c'est pareil. Si on travaillait tous à la levure, sur cet aspect-là, ce serait pareil.
Donc la levure permet surtout de standardiser, d'automatiser, de réfrigérer éventuellement ce qu'on s'interdit, nous, en Nature et Progrès. Ça permet de faire des quantités vraiment beaucoup plus importantes avec une mécanisation et des gestes très répétitifs au niveau du boulanger. En travaillant en levain, on se réapproprie la transformation.
Ce qu'on peut dire aussi sur le levain, sur le travail au levain, c'est que dans le cahier des charges Nature et Progrès, pour appeler un pain en levain, on est obligé d'utiliser uniquement du levain, alors qu'en boulangerie traditionnelle ou même en boulangerie bio, la réglementation, c'est ok, on travaille avec du levain, mais on a droit à l'ajout de, je sais plus, c'est peut-être 0,2% de levure par rapport à la masse de farine, c'est ça. Voilà. Et ça, ça apparaît pas souvent sur l'étiquetage des produits.
C'est-à-dire qu'en fait, quand la pâte est ensemencée avec des levures, on dit des levures, c'est au sens large. C'est-à-dire celles qui sont dans le levain ou dans la levure. C'est un petit peu... Donc quand la pâte est ensemencée, en fait, dès qu'il y a la présence de levure de boulanger, cette fameuse fermentation dite alcoolique, elle prend le dessus, en fait. Donc votre pain a beau être au levain, s'il n'est pas 100% levain, pur levain, il va y avoir l'action de la levure qui va prendre le dessus et qui va... Enfin, à supposer qu'il y en ait 0,2% ou un peu ou plus, donc la levure risque de prendre le dessus et le levain apportera moins de ses bienfaits que s'il était seul, en fait. Voilà. J'ajoute que pour certains cas, on a des levains type pur petit épeautre, par exemple pour des pains où on veut être sûr qu'il n'y ait que du petit épeautre. Et dans mon cas, j'ai encore un levain sans gluten, donc à base de riz, de maïs et de sarrasin, pour faire des pains sans gluten. Donc ça fait encore d'autres levains à gérer. Un levain, du coup, ça suit la vie du boulanger. Il y a des boulangers qui ont fini leur carrière très très tard et qui ont le même levain depuis toujours, quoi. Le mien va avoir 10 ans cette année. Bon, c'est pas énorme, mais enfin, c'est, voilà, depuis 10 ans j'ai la même quantité de pâte en fermentation permanente qui vit, tout simplement. Voilà. Le levain, d'ailleurs, ça s'échange, ça se donne, ça se partage, c'est vivant. Voilà.
Juste pour que vous compreniez concrètement ce que c'est juste de l'eau, de la farine et des bactéries. Donc nous, quand on travaille avec du levain, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute juste de l'eau, de la farine, et on garde un petit bout de pâte avec plein de ces bactéries. Donc concrètement, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais il y a un suivi en amont qui paraît simple lorsqu'on regarde un boulanger travailler qui mélange juste son truc. Mais en amont, il doit avoir une connaissance de toute l'histoire de son levain, de qu'est-ce qu'il va devenir dans le temps, parce qu'il se transforme dans le temps, il devient alcoolique, il y a des odeurs, il y a un tas de choses. Et il y a tout ce travail-là qui doit être bien compris, quoi. Mais concrètement, c'est de l'eau, de la farine et des bactéries.
Juste pour préciser, les bactéries, elles sont dans l'air, quoi. Hein. C'est pas le boulanger qui les rajoute.
Est-ce que vous avez des questions sur le levain? Oui, alors attendez, j'arrive.
Oui, bonjour. Vous m'entendez? Ça va? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu, parce que le levain, c'est pas une invention récente, et pourquoi est-ce que la levure a pris beaucoup de place dans la fabrication du pain, dans l'industrie du pain, et enfin, qu'est-ce qui a fait que les boulangers se sont plus tournés vers la levure et moins vers le levain?
Le levain, c'est compliqué en fait, parce qu'il a une vie et il est capricieux. Il y a des fois, on ne sait pas pourquoi il réagit comme il réagit. Il y a des fois où il tourne. C'est-à-dire on ne peut pas le travailler parce qu'il a un mauvais goût, il va donner un mauvais goût. Et il est moins stable que de la levure. La levure, ça, c'est un type de bactérie bien développée, bien virulent, qui a un comportement très linéaire et on sait exactement comment on réagit. Donc on met de l'eau, on met ce petit cube de levure dans la pâte et on sait qu'au bout de 3-4 heures, il y aura une fermentation et que tout va bien. Lorsqu'on achète de la levure, on est sûr d'avoir un résultat en fermentation. Alors que sur le levain, il y a un tas de cas qui peuvent arriver, quoi.
En fait, la réponse était dans votre question. Hein. Pourquoi l'industrie s'est saisie de... ben, parce que c'est l'industrie. C'est-à-dire que pour industrialiser du pain, effectivement, la levure, ça va mieux, quoi. C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple, quoi. Et puis ça a grosso modo ça a une centaine d'années à peu près. Donc c'est pas très vieux à l'échelle de l'âge du pain, on va dire.
On peut aussi penser que c'est une mode aussi qui est apparue d'avoir son pain chaud chaque jour. Et alors que le levain va demander une fermentation longue, et des pains vont faire des pains qui vont se conserver plusieurs jours. Nous, on fait des gros pains qui, du coup, les gens souvent en achètent pour plusieurs jours. Là, l'envie d'avoir sa baguette chaude chaque jour fait que, avec la levure, on peut faire plein de fournées dans la journée, hop, assez rapprochées, et comme ça, il sort à toute heure, il y a du pain chaud, quoi. Voilà.
Effectivement, il y a un effet marketing de voir les baguettes sortir du four à toute heure de la journée. Bon, après, il faut voir combien de temps la baguette va rester mangeable.
Oui, bonjour. En fait, je voulais juste participer, parce que je suis boulanger de métier, mais alors, je travaille dans un hypermarché, donc ça à la fois rien à voir. Et en fait, pourquoi la levure est utilisée aujourd'hui, si le fait que c'est par rapport au pain sous forme de baguette, quoi. Ça n'a rien à voir au pain en grosses pièces, justement, travailler sur le vin, qui sont des pains typés, quoi, qui, comme vous avez expliqué, c'est que chacun travaille donc sur son ferment. Ça fait que chaque boulanger a un produit... disons, typé avec de caractères qui lui correspond. Tandis que la baguette, on va parler des pains qui sont aujourd'hui, quoi. Ça pourrait pas être travaillé avec du levain. D'ailleurs, je sais pas si vous essayez d'en faire... si vous essayez, à mon avis, avec au levain naturel, de faire un pain sous forme de baguette, le résultat va pas être...
Si, c'est possible, mais ça donne pas le même résultat. Nous, on l'appelle pas baguette pour éviter les confusions, mais... Ça donne pas le même résultat.
Et je pense que pourquoi aujourd'hui c'est utilisé, c'est parce que c'est le pain qui est, comment dire, utilisé sous la forme de baguette. C'est pas du tout le pain rustique à l'ancienne qui était sous forme de grosses pièces avec une croûte qui se conserve. Enfin, ça a vraiment rien à voir. Je pense que c'est pour ça, quoi.
Il y a aussi un problème de volume sur le levain-levure. Quand on utilise de la levure pour faire une pétrissée, par exemple, vous utilisez même pas un kilo de levure. Nous, lorsqu'on travaille sur du levain, c'est 30 kg de levain qu'on utilise. Le ratio n'est pas le même et le travail n'est pas le même. Et en plus, il y a un travail de prédigestion qui se fait avec le levain, qui ne se fait plus avec la levure. La prédigestion, ça fait que c'est beaucoup plus digeste. Du coup, il y a beaucoup moins de problèmes de digestion, tout bêtement.
Bonjour, moi je voudrais parler un peu de levure. Vous avez dit, vous êtes négatif sur la levure, alors que la levure est un produit naturel. La levure, c'est de la fermentation du houblon. Je vais vous citer un cas, ça se passait, c'est très vieux. C'était en 1958 en Algérie. L'Oued avait emmené la route. On nous a dit, vous montez un four, le génie vous amène une voûte. Alors, il y avait des maçons, donc on a monté la maçonnerie. la voûte et du sable tout mouillé parce qu'il pleuvait. On a commencé le lundi, le samedi on faisait du pain. Et donc parmi nous, il y avait un majeur qui s'appelait A Cambrai et qui était de Cambrai. Et donc c'est le pays de la bière, marqué en Barœul, c'est le pays de la bière de la levure. Et il nous disait, quand j'étais gosse, il a mangé la levure. On avait déjà d'époque de la levure en granulé. Il la mangeait et il nous disait, moi quand j'étais gosse, j'allais dans les brasseries, le mout du houblon, on y mangeait, c'était la bière. Et la levure est faite avec ça. Donc il faut arrêter d'être négatif avec la levure. C'est un goût totalement différent. Bon, le pain sur le vin a beaucoup d'acidité. Bon, maintenant, j'ai été un ancien boulanger, c'est pour vous dire. J'ai passé le CAP de boulanger l'année où on démontait le pont de la Guillotière. Alors, vous avez qu'à reculer dans le temps. Bon, excusez-moi, voilà, au revoir.
Alors, ce qu'on critique pas, on critique pas la fermentation, attention. Là, vous parlez de fermentation au sens général. Lorsque vous parlez d'une fermentation pour la bière, c'est pas la même fermentation que pour les levains, ben, c'est pas les mêmes bactéries. Mais après, on n'est pas contre la levure. Hein. En pâtisserie, on peut l'utiliser, on n'est pas contre ce système-là. On dit juste que nous, on préfère utiliser le levain pour tout un tas de raisons. Après, que en boulangerie, on utilise la levure, on n'est pas... Chacun prône après pour... Le monsieur parle de pouliche. La pouliche, c'est une très fermentation.
C'est une... voilà ce que je fais, enfin, pour des petites candidats, parce que maintenant, je prends une livre de farine, je mets 0,55 d'eau, un cube de levure, et donc je fouette, ça fait une pâte à crêpes un peu, et au bout d'une heure et demie, la pouliche arrive à hauteur. Alors je fais du céréal, donc je pétris mon pain céréal, et quand il est simplement phrasé, c'est lorsqu'on a, la pâte est mélangée. Lorsqu'il est phrasé, j'introduis la pouliche et je tourne. Et ça, je fais 2 kilos de pain dans un Kenwood. Il remue, mais enfin, il tient le coup depuis 20 ans.
Est-ce que vous pouvez réagir à la pouliche par rapport au levain ?
Alors, nous, à la Miciclette, on ne travaille pas sur pouliche, mais par rapport au cahier des charges de Nature et Progrès, l'utilisation de la levure est autorisée à titre exceptionnel, et effectivement, c'est sur pouliche, parce qu'avec une pouliche, donc, ça va permettre de développer une population effectivement de levure un peu plus complexe que la levure pure qui a vraiment un champignon bien spécifique, mais on n'obtiendra pas jamais la même biodiversité, on va dire, que dans un levain en fait.
Ouais, juste pour info, une pouliche, c'est de l'eau dans laquelle on a mis de la levure et on attend une certaine fermentation pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, et un peu de farine, ça dépend des pratiques, mais ça donne une espèce de pâte à crêpes. Et c'est pour améliorer le goût et la texture. C'est une pratique de la pouliche.
On prend votre question. Après, on suit un peu les étapes du pain. On voudrait passer au travail de la pâte. Voilà.
Alors, juste une question. Vous aviez parlé de pain sans gluten et donc de levain sans gluten. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Comment ça se prépare ? Comment ça se fabrique, même un levain en général, comment ça se fabrique au départ. Et puis une deuxième question, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intolérants au gluten. Enfin, dans mon environnement, j'en connais. Et y a des farines qui ont plus ou moins de taux de gluten. Et ça, on n'a pas jamais cette information quand on achète du pain nulle part. Quel est le taux de gluten qui est inclus dans la farine ? Et c'est une information qui me semble intéressante parce que je sais qu'il y a des variétés anciennes de farine qui ont un taux de gluten beaucoup plus bas que les farines actuelles où, pour la panification, il est recommandé de mettre des farines à taux de gluten élevé. Voilà,
c'est assez compliqué. Je pense que si vous avez un sac de couchage, on peut en parler jusqu'à demain matin. au moins, le taux de gluten dont vous parlez... Il n'y a pas que le taux, c'est-à-dire la quantité de gluten qu'il y a dans une farine, il y a aussi la taille de la molécule. Donc je vais essayer de faire court. La molécule a énormément grandi depuis environ un siècle, depuis qu'on cherche à faire des pains qui ont une force, qui ont ce qu'on appelle de la force, c'est-à-dire des pains qui vont bien développer, qui vont être bien développés, qui vont aussi d'ailleurs résister éventuellement au froid ou à la congélation, ou au moins au froid positif avant la cuisson. Donc pour tout un tas de raisons techniques, on a amélioré les blés depuis à peu près 100 ans, grosso modo. Enfin, amélioré, bon, C'était peut-être pas tout à fait le bon mot. On a sélectionné des blés, on a croisé, enfin, etc. On a fait des modifications, des améliorations.
Un développement.
On me l'a tellement appris pendant le CAP. Des modifications. Et donc, du coup, ces blés sont devenus indigestes ou moins digestes selon les personnes. Donc, il faut savoir que il y a plusieurs niveaux d'intolérance ou de d'hypersensibilité au gluten. Donc, il y a d'abord l'intolérance stricte pour les gens qui ne peuvent pas en avaler une molécule, qui sont malades dès qu'ils mangent en dehors de chez eux et le savent assez rapidement. Et c'est une faible part de la population que je compte quand même. Mais donc, c'est les personnes qui ont la maladie cœliaque ne peuvent pas, absolument pas digérer quoi que ce soit en termes de blé ou de seigle ou d'orge ou d'avoine. Donc, ces gens-là sont très embêtés pour manger à l'extérieur de chez eux. C'est pas mal. C'est quand même, faut y réfléchir, ça arrive souvent quand même. Ensuite, après, il y a une foule de gens, dont je fais partie, qui ont un peu de mal à digérer les blés actuels. Ça se traduit par, dans mon cas personnel, des migraines, grosse fatigue. J'ai mis assez de temps à m'en apercevoir, et puis le jour où j'ai arrêté de manger du blé conventionnel, ça allait beaucoup mieux. Et donc, pour une partie de ces gens-là qui sont hypersensibles au gluten, on ne dira pas intolérants, il y a des farines qui sont plus digestes, comme celle de petit épeautre. Le petit épeautre a une molécule de gluten qui est courte, qui n'a pas évolué dans les siècles autant que le blé a évolué, et du coup, le petit épeautre, à supposer que le pain soit pur petit épeautre, qu'il ne soit pas coupé avec du blé à côté, le petit épeautre devient du coup un pain qui est digeste par ces gens-là. Voilà. Donc voilà pour le problème de la digestion, enfin, du moins de ce que je sais. Pour démarrer un levain, c'est pas très compliqué. Vous pouvez l'essayer tout seul chez vous. Vous prenez un peu d'eau tiède, de la farine. Si vous êtes pressé, vous mettez un peu de sucre, du miel, un jus de fruits sucrés ou pas du tout. Et au bout de quelques jours, vous allez avoir, au bout de 24-48 heures, vous allez avoir des petites bulles qui vont apparaître, une fermentation, toujours en laissant se lever à température ambiante, relativement tiède, enfin une vingtaine de degrés à peu près, 20-25 degrés. Et puis, vous pouvez effectivement utiliser une farine de préférence complète pour qu'il y ait plus de germes, pour que ça fermente plus rapidement. Et puis, au bout de 2-3 jours, vous le renourrissez, vous lui redonnez un peu d'eau, un peu de farine, votre pâte à crêpes, on va dire, ou un peu plus épaisse, va commencer à évoluer, et au bout de quelques temps, à force de nourrir ce levain, vous aurez un levain qui vous permettra de faire du pain. Après, il faut en mettre suffisamment dans un kilo de farine pour que ça lève, donc beaucoup plus que de la levure, tu disais tout à l'heure, et ça fait un levain. Il faut évidemment le garder, le gérer, ne pas le laisser mourir, le nourrir régulièrement, éventuellement le mettre au frigo si on veut ne pas s'en occuper pendant quelques jours. Voilà.
Et pour le levain sans gluten, c'est pareil, c'est le même procédé ?
Le levain sans gluten, c'est un peu plus dur parce qu'évidemment, il n'y a pas de gluten, donc il va pas tenir. Donc moi, j'utilise du riz, du maïs et du sarrasin, mais principalement de la farine de riz. Et après, dans mon pain, j'en mets une bonne proportion par rapport au pain au levain pour arriver à faire un pain sans gluten. Ça va faire un pain sans gluten qui va quand même être dense, qui n'est pas spécialement goûteux, mais qui permet quand même de manger du pain quand on peut vraiment pas manger autre chose. Ceci dit, pour le sans gluten, moi en tant que boulanger, je conseille quand même toujours aux gens de regarder s'ils peuvent déjà commencer à consommer du petit épeautre. Le pain en petit épeautre, c'est un régal déjà en termes de gustatif. Et puis, il est beaucoup plus souple que du pain sans gluten, quoi.
Juste une petite précision, il faut bien savoir qu'on entend parler du gluten, mais le gluten, c'est la protéine du blé, quoi. Donc, vous avez la protéine du lait, c'est toujours une allergie due aux protéines, quoi. Donc, pourquoi ? Il faudra vraiment se poser la question, quoi. Mais il faut savoir que le blé, aux agriculteurs, était payé par rapport à la quantité de protéines. Donc, on a vraiment sélectionné les blés pour faire de la protéine, donc pour faire du gluten. Donc, est-ce que les sensibilisations sont venues à partir de là ? La preuve, c'est par le petit épeautre, puisque le petit épeautre, c'est un rebelle génétique. On n'a jamais pu le modifier. Et lui, c'est vrai que les personnes le supportent, quoi.
On ne peut pas déterminer un pain en fonction de sa teneur en gluten, justement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à nous, consommateurs. Parce que je sais qu'il y a des blés anciens, il y a des producteurs qui font des blés anciens avec beaucoup moins de gluten et qui sont probablement plus digérables ou digestes. Mais ça, on n'a pas cette information. Même si on achète de la farine, on n'a pas non plus cette information.
C'est vrai que les blés anciens, ils ont des faibles taux de protéines. On tourne à des 10-10,5 taux de protéines, que les blés modernes, on a du 14-14,5. Donc, C'est pour ça qu'à mon avis, ils sont plus digestibles. Mais aujourd'hui, on commence à avoir des gros moulins. Moi, je vois de la pub avec des gros moulins farine ancienne. Je me pose énormément de questions. Qu'est-ce qu'un blé ancien ? Parce que les blés anciens, ça s'est mis à se développer depuis 3-4 ans. Et on avait quoi ? On avait 100 grains qu'on devait planter dans le jardin pour multiplier, quoi. Donc c'est pas en 4-5 ans qu'on va arriver à faire des pains de farine de blé ancien pour toute la population, c'est pas possible. Donc j'aimerais savoir, moi, ces moulins, qu'est-ce qu'ils utilisent comme farine, quoi. Qu'est-ce qu'on on entend par blé ancien, quoi. Et ça, la transparence, on l'a encore pas tout à fait, quoi.
Et juste pour finir sur le gluten, pour ramener au cahier des charges Nature et Progrès, le cahier des charges Nature et Progrès, il interdit d'utiliser des farines contenant des additifs, dont le gluten qui est en fait dans la boulangerie conventionnelle, on rajoute systématiquement du gluten dans la farine pour corriger le taux de protéiques de la farine, quoi. Voilà. Et ça, pour le coup, pour les consommateurs, sur votre sac de farine, vous pouvez le voir s'il y a du gluten rajouté ou pas.
Du coup, on va commencer. Une dernière question. Ouais.
C'était juste pour les améliorants. Vous les utilisez quoi dans Nature et Progrès, du coup, pour améliorer la farine au final?
On a du sel. On utilise du sel, beaucoup de sel.
En fait, j'ai le cahier des charges sous les yeux. C'est marqué l'ajout d'additifs dans la pâte est interdit, de même que l'utilisation de farine contenant des additifs.
Même les additifs pour la baguette de tradition, enfin la farine de tradition, même pas.
Voilà, on n'en utilise pas.
Rien du tout.
On D'accord. utilise de la farine, c'est de la farine en fait.
En fait la farine de tradition, ça ressemblerait un petit peu à une. Enfin, je vais peut-être pas être gentil, mais à une appellation marketing, quoi. Chez nous, chez Nature et Progrès, disons, c'est que des farines de tradition, quoi. Enfin, un équivalent, je dirais. Enfin, avec même moins de produits dedans, quoi. Oui, dans la trad, il y a effectivement des additifs, mais moins que dans la farine conventionnelle. Mais chez Nature et Progrès, la farine, c'est du blé, point. Tout.
D'accord.
Enfin, du blé ou du seigle ou du... Voilà. Et les additifs, ils sont là. On en a deux chacun.
Alors, parlez-nous de vos additifs. Parlez-nous de vos additifs. Les mains.
Oui, voilà, oui, par rapport à Marie-Page.
Les mains.
On n'a pas d'additifs, je ne comprenais pas, c'est pour ça. Du coup, alors nous, on est sur un pétrissage manuel, donc non mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire un pétrissage mécanique ? Donc, en boulangerie conventionnelle, c'est qu'ils ont des grands batteurs avec une cuve et ils appuient sur le bouton et du coup, ils mélangent la farine, l'eau et la levure et accessoirement le levain s'ils utilisent du levain. Et le sel, oui, effectivement. Et du coup, ils attendent une vingtaine de minutes. Et ça fait ce travail mécanique. Nous, à la Mi-Cyclette, merci, on fait... Oui, voilà. Parce qu'on n'est pas tous sur le même travail. On fait un travail manuel, donc c'est nous qui faisons ce travail-là. Donc on a un grand bac en bois qui fait 2 mètres sur 80 cm où on mélange la farine, l'eau, et le sel et le levain à la main. Donc nous, on a plusieurs types de pâtes. Et en une pétrissée, enfin sur une pétrissée, on fait 200 kilos. Donc sur ces 200 kilos, on fait plusieurs types de recettes. Donc par exemple, il y aura une pâte qu'on va mélanger à la main où il y aura des graines, une autre pâte à côté où il n'y aura pas de graines, et ainsi de suite. Donc on ne mélange pas 200 kilos à la main parce que ce n'est pas possible et on ne le veut pas. Nous, on mélange en général entre 5 et une vingtaine de kilos. Et du coup, on fait ce premier travail à la main. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas le plus pénible, c'est même pas très pénible en fin de compte. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le métier le phrasage. Nous, sur la bicyclette, on est sur un phrasage assez doux, c'est-à-dire qu'on mélange, et une fois que c'est mélangé, on attend un peu. Et après, nous, on fait un retravail qui se fait dans le temps en fait. On retravaille mécaniquement la pâte, mécaniquement à la main. Donc on sectionne. Il y a plusieurs types en fait. Il y a des rabats, c'est-à-dire qu'on ramène la pâte sur elle-même pour qu'elle, par gravité, elle se repose sur elle-même afin de tendre les gluten qui sont contenus naturellement dans la pâte. Et il y a un autre travail où on sectionne, entre guillemets, donc avec une espèce de coupe-pâte, c'est une espèce de lame métallique qui coupe pas, hein, mais qui coupe, enfin qui coupe pas comme un couteau, mais qui coupe comme un coupe-pâte, pardon. Et du coup, en fait, en le sectionnant, ça fait que la pâte développe un peu plus son réseau glutineux et un peu plus de tenue. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est parce que nous, on travaille avec un four à bois et que nos pâtes, comme elles contiennent, il n'y a pas de gluten rajouté. et on a tout un travail mécanique, enfin tout un travail manuel à faire pour que la pâte se tienne et qu'elle ne s'étale pas naturellement dans le four à bois. Du coup, on est obligé de faire tout ce travail-là pour qu'elle ait une tenue physique et qu'elle ressemble à quelque chose.
En fait, ce travail-là sur un pétrin mécanique, utilisé en boulangerie conventionnelle avec deux vitesses, vitesse lente au début pour mélanger, pour faire le phrasage, donc. Et après, on peut éventuellement utiliser la vitesse rapide, qui là va plutôt être agressive envers la pâte, qui va vraiment développer le gluten, le réseau glutineux dans la pâte. Et va, ce pétrissage mécanique va rendre une pâte bien ferme, va la rendre vraiment, ferme. Si vous posez un bloc de pâte, il ne va pas s'étaler, quoi. Il va rester vraiment, vraiment ferme. Alors ça a des avantages, c'est que ça vous permet évidemment de ne pas le faire à la main, ça va de soi. Inconvénient quand même, c'est que cette pâte va se conserver un peu moins longtemps, va blanchir et va perdre du goût. Donc le pétrissage intensif, ce qu'on appelle en boulangerie conventionnelle le pétrissage intensif, et il a des avantages techniques pour le boulanger, mais il a des inconvénients, c'est que le pain va être moins bon, va se conserver moins longtemps et va perdre un peu de sa couleur crème. Voilà. Donc sur un pétrissage lent, comme on le pratique tous, alors moi dans mon cas, je pétris une partie de mes pains avec un pétrin électrique, je n'utilise que la première vitesse, la lente, et ça dure moins de 5 minutes. Donc grosso modo, pendant que ça fait ça, je fais autre chose, enfin je pétris d'autres pâtes à la main par exemple, mais jamais d'un pétrissage intensif qui va, je dirais, agresser la pâte en fait. Voilà.
Le fait de travailler à la main, pourquoi est-ce qu'on travaille à la main et pas mécaniquement ? Enfin, nous, en tout cas, le parti pris, c'est que du coup, on aime à avoir cette sensibilité par rapport à la farine et à un savoir-faire et une adaptabilité par rapport à la typicité de la farine qui a une fluctuation dans le temps entre l'été et l'hiver. La farine n'est pas la même et elle est dans son comportement physique, ça change. Il y a des fois, elle ne se tient pas, des fois, elle se tient. Et le fait de le pétrir à la main, on s'en rend compte très facilement. Et parce que du coup on a une histoire avec tous ces pains-là et avec ces pâtes et du coup on la comprend assez vite. Et aussi pour travailler les vieilles variétés qui sont pas évidentes à travailler en termes de tenue, nous ça nous permet de d'être plus présent et de savoir ce qu'il faut faire en termes de remédiation. Quoi. Voilà. Je sais pas si tu veux intervenir. Voilà. Je sais pas si on a.
Donc ça c'est le premier travail de la pâte, c'est donc le pétrissage. Après. On l'a travaillé en deux fois en fait. Il y a donc le pétrissage, un temps de repos qui s'appelle le pointage. C'est le premier temps de repos. Et ensuite, on va passer au façonnage. Donc le façonnage, c'est en fait, on va d'abord découper la pâte en pâtons individuels, on va dire. Nous, c'est des pains de 1 kg. Et ensuite, on les forme en fait pour. On leur donne leur forme finale, quoi, qu'ils vont. Enfin, finalement, on leur donne leur forme. Nous, on les dépose dans des bannetons en osier, là, des petits moules en osier avec une petite, avec une toile dans lesquelles ils vont reposer de nouveau. Et voilà, les bannetons, c'est ce qui circule avec le pain là-dedans. Et donc là, ils vont de nouveau pousser encore un moment. C'est la phase d'après, ça s'appelle. Voilà. Et donc ça, tous ces gestes, ils sont faits manuellement. Et c'est des choses qui apparaissent pas aussi forcément dans le conventionnel. Ça peut dépendre des boulangeries. Il y en a qui vont faire le pétrissage mécaniquement et ensuite le façonnage manuellement, mais il y en a aussi qui font tout mécaniquement en fait jusqu'au bout. Hein, j'ai déjà visité une boulangerie où oui le pâton sortait, il était déjà presque prêt, il avait plus que la personne au bout du tapis, c'est hop, et mettait dans un moule. Et donc tout ça, c'est aussi dans le cahier des charges Nature Progrès, c'est retranscrit de manière à ce que, en fait, le boulanger conserve son savoir-faire et son autonomie par rapport aux machines. Voilà.
Effectivement, en travaillant à la main, on n'est pas trop embêté par les contrats de maintenance matérielle de ce côté-là. Bon, quelquefois, il y en a qui se plantent un clou dans le pied, mais ça, c'est une autre histoire. Il y en a deux, trois qui comprendront. Le travail manuel de la pâte, c'est aussi parce qu'on a des pâtes très différentes. Il y a des illuminés qui font 8-10 pâtes par jour différentes, jusqu'à 20, non, plus
8-9, 10,
voilà, ouais. Bon, bref, on fait 16, pardon, d'accord. Enfin bref, on fait quand même tous des pâtes très très différentes. moi, j'ai le temps que j'ai passé en boulanger conventionnel, j'ai quand même vu des pains différents qui étaient en fait à base de la même pâte au départ, quoi, pratiquement. Donc, ça permet aussi, d'avoir, quand on a des gros volumes, d'avoir les machines qui sont rentables, quoi. Voilà, tout simplement. Si vous avez une machine qui divise les pains automatiquement en petits morceaux, ben, si vous faites 10 ou 15 pains de la même pâte, ça ne vaut pas le coup d'avoir une machine pour ça. Par contre, si vous avez 100 ou 200 pains ou plus identiques à faire, la machine commence à prendre du sens. Du coup, voilà, là, c'est là qu'on commence un petit peu, je dirais, à avoir des boulangers conventionnels qui sont dans votre quartier, qui font leur pain chez eux, enfin dans leur boulangerie, qui sont quasiment de petits industriels, quoi. Avec des machines qui sont performantes, on va dire, voilà. Et puis, un petit peu la perte de savoir-faire de la pâte, du pain qu'on a dans les mains, quoi. Voilà.
Du coup, le pain que la plupart d'entre nous ont fait, à partir du moment où on met les mains dans la farine, dans l'eau et dans le sel, et à partir du moment où il est cuit, c'est du direct. Il n'y a pas un temps où ça reste dans des frigos, dans des choses comme ça. En tout cas, nous, c'est du direct. Donc, le pain qui est préparé, il est cuit dans la foulée. Donc, il y a un lien vraiment direct entre le pain qui est préparé et le pain qui est cuit, le pain que les gens consomment pour nous. Et aussi le fait que, en tout cas, pour nous, on veut vraiment avoir une distance par rapport à la mécanisation en général. C'est pas un truc qui nous parle, même si ça peut être une pratique qui est assez répandue. Ça permet aussi de s'exonérer d'un tas d'outillages électriques, d'un tas d'outillages mécaniques avec une maintenance et une dépendance par rapport à toute cette industrialisation qui est assez forte pour le coup. On a une vraie autonomie sur la production du pain, parce que du coup, c'est nous qui sommes la variable avec tout le savoir-faire, quoi.
Oui, donc vous avez peut-être des horaires de travail qui sont moins plus simples que les boulangers classiques, on va dire.
Ben là aussi, on a des horaires plus simples. On travaille pas la nuit, pour le coup, nous, à la bicyclette. On commence à 6h en général. Parce que nous, on a un réseau de distribution qui est un peu différent par rapport à une boulangerie conventionnelle. Parce que nous, on livre à vélo. Il y a une partie de notre production qui livre à vélo à des professionnels. Et c'est livré en début d'après-midi. Donc du coup, la production se fait de 6h à 13h. Et tous les pains sont livrés dans la foulée. Et puis, il y a une partie qui est vendue au magasin pour nous. Du coup, nous, on a des horaires assez confortables pour la boulangerie, on va dire. Donc, les boulangers commencent à 6h et finissent à 14-15h.
Donc ça, c'est super pour nous. Et pour les consommateurs, il faut qu'ils s'adaptent parce qu'on ne peut pas trouver notre pain le matin à 7h dans notre boulangerie. Voilà.
En fait, sur les pains qui se conservent plusieurs jours, ça pose pas trop de problèmes. Si vous avez effectivement des baguettes sèches en 34 heures, j'exagère à peine, mais sèches assez rapidement, bah, du coup, vous êtes un peu obligé effectivement d'avoir un fournil qui va tourner quasiment 24 heures sur 24. Là où j'étais dans une boulangerie conventionnelle à Saint-Priest, l'après-midi, le boulanger regardait ce qui restait dans les rayons, il remettait en cuisson quelques chariots de baguettes qui sortaient du frigo pour pallier au manque dans les rayons. Nous, dans notre cas, on produit des pains qui vont se garder quasiment une semaine pour des pains d'un kilo ou de 2 kilos, et du coup, on n'est plus à 3 heures près, quoi. Donc effectivement, moi je me lève à 6, entre 5 et 7 heures le matin, ça dépend des jours, et du coup le pain est produit plutôt le soir, donc les adhérents qui viennent chercher leur pain le récupèrent généralement entre 18-19 heures, et du coup c'est du pain qui est super frais et qui va se garder longtemps, et le lendemain matin il sera très bien. Ils n'ont pas besoin d'avoir un pain qui sort du four, qui est chaud au moment où il sort, surtout que le pain qui n'est pas trop chaud, c'est pas très bon non plus.
Je dirais même mieux, c'est encore mieux le lendemain matin pour le consommer.
Oui, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va aborder la. Deux questions.
C'était toujours par rapport à ce temps de travail. C'était juste donc le temps de pouce, enfin du moins de. Effectivement, les durées, les temps, quels sont les temps en gros entre du pétrissage jusqu'à la mise au four, en fait, en gros, combien de temps ça dure
Ouais, il faut compter 6 à 7 heures de pouce, quoi, en tout. Enfin, à partir du moment où vous mélangez l'eau et la farine, jusqu'au moment d'enfournement, moi je compte entre 6 et 7 heures, quoi. Après, quelquefois, ça peut être plus court. Hein. C'est l'été qui fait super chaud, quand on se fait doubler. Quand on ne se rend pas compte que l'été, le printemps arrive et qu'il fait vraiment chaud. En fait, on joue, nous, sur la température. Dans la boulangerie, tout est question de température de pâte. Une pâte fermente bien vers 25-28 degrés à peu près. Et donc, en hiver, on a tendance à mettre... On a trois températures. Il y a l'air ambiant, Bon, celui-là, on ne peut pas y jouer très rapidement dessus. La température de la farine, on ne peut absolument pas la toucher, on ne va pas la faire chauffer. Il reste l'eau qu'on met dans la farine. Donc avec l'eau, en fait, on a une variable d'ajustement en fonction de la saison. Donc moi, en hiver, je vais mettre de l'eau dans ma pâte qui va être environ à 33, 34 degrés à peu près. Et puis en été, je vais prendre de l'eau qui sort du réseau et elle est à 20 et quelques. Et du coup, avec ça, on peut moduler la durée de la fermentation, en fait. Alors effectivement, si on est aussi, si on a loupé le réveil, bon, ça n'est encore pas arrivé, mais si on se démarre très tard et qu'on a une contrainte horaire, on peut tricher un peu sur la température ou la quantité de levain, mais on ne va pas gagner 3 heures sur 6, quoi. Voilà.
Oui, moi j'ai deux questions. Alors, l'eau que vous utilisez, c'est l'eau du robinet, c'est... Oui, j'avais lisé, donc.
Alors, nous, pour la bicyclette, nous, on a un système de... On a cherché beaucoup de choses par rapport à l'eau au départ. Un système d'osmoseur, un tas de choses pour avoir une qualité d'eau qui nous satisfaisait personnellement à la bicyclette. Et du coup, nous, on s'est orienté sur un système qu'on a bricolé avec notre plombier. Mais c'est plutôt pertinent ce qu'on a, nous, comme système. Donc, on utilise le système du réseau qui est potable et qui est correct. Mais nous, par rapport au levain et par rapport au chlore et par rapport à la qualité des pains, on voulait avoir autre chose. Du coup, nous, on a deux pré-filtres à microns de 5 et 26 microns. Donc c'est des filtres tout bêtes, des grands filtres qui font 25 cm de long. Mmh. Et ensuite, on a 4 filtres en linéaire, physico-chimiques. C'est du charbon actif. Mais il y a des métaux dedans aussi, afin de filtrer l'eau. Du coup, on a une qualité d'eau, on ne l'a jamais fait analyser, mais c'est une garantie pour nous d'avoir une qualité d'eau assez sympathique, quoi. Et du coup, on a nos levains qui vont assez bien. Et c'est pas très chloré, enfin c'est même pas chloré du tout pour le coup.
Ok. Ma deuxième question, c'est est-ce que c'est plus difficile de faire du pain complet?
Complet, c'est-à-dire?
C'est-à-dire le blé moulu, quoi, carrément à 160.
Complet, il y a complet, ça veut dire. Ouais, intégral. Complet,
intégral, voilà.
Complet, c'est 110, T110. Okay. Intégral, ça peut être 150, 150. Enfin, ça, c'est le type de mouture. Ouais. Non, je pense pas. Nous, sur du complet, on est en T110, on n'est pas sur l'intégral, mais je sais pas si.
Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai eu pratiquer la type 150 et, comme un autre. Okay. Bon, on aura un pain qui sera quand même moins développé, un peu plus plat qu'un type 80, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Quoi.
D'accord. Il y a un boulanger quand près même de chez moi qui fait lever, soi-disant, 12 heures.
Oui, c'est possible. Hein. Après, comme disait Jean-Marie, c'est des histoires de température. Si on travaille avec des températures plus faibles, on aura des durées de lever beaucoup plus longues aussi. Donc c'est possible aussi. Donc il risque d'avoir un pain peut-être plus acide aussi. Faut voir.
Avec des gros trous.
En fait, la difficulté qu'il peut y avoir à travailler une farine de plus en plus complète, c'est le réseau de gluten qui va pas se former de la même manière. Donc le réseau de gluten, c'est ce qui permet d'emprisonner les bulles, en fait. Hein, c'est un réseau élastique. Et donc avec une farine de plus en plus complète, ce réseau, il va être coupé en fait par les éléments qui sont présents dans la farine, le son, les minéraux, machin. Et du coup, ça va donner des pains qui vont un peu moins bien se tenir. Donc il faut faire un peu plus attention, quoi, au moment où on les travaille.
Effectivement, sur la fermentation, on peut faire des fermentations longues. Donc effectivement, en jouant sur la température et en mettant une eau bien froide au départ pour que ça m'arrive de faire des fois une fermentation, un pétrissage à 22h ou 23h et de le façonner et l'enfourner. Je dois enfourner à 12h après, quoi, 10h le lendemain, quoi, entre 10 et 11h. Ça fait du très beau pain aussi. Ceci dit, chez Nature et Progrès, on n'est pas vraiment pour la réfrigération. Donc tout ce qui peut être évité en termes de consommation énergétique, il faut le faire. Donc si vous avez un sous-sol enterré, c'est parfait. Si vous êtes dans le midi de la France et que vous n'avez pas de sous-sol enterré, pour fermenter 12 heures au mois d'août, ça va être dur.
Ouais, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être faire les fours.
Donc la cuisson. Donc chez Nature et Progrès, sont conseillés, même fortement conseillés, les fours à bois. Donc dans les fours à bois, on a deux systèmes. On a les fours à chauffe direct et les fours à chauffe indirect. Donc le four à chauffe direct, comme utilise la bicyclette, donc c'est des fours où on a un système avec un gueulard, soit avec un système où on fait carrément le feu à l'intérieur du four, quoi. Et on retire la braise et on cuit. C'est l'inertie qui cuit le pain, quoi. Et après, il y a des fours à chauffe indirect, donc moi, comme j'utilise, quoi, on a le foyer dessous et dessus, j'ai des sols qui tournent, quoi, manuellement. Et les deux sont autorisés. Après, sont autorisés aussi des chauffages au fioul ou au gaz. Mais ce qui est fortement mais qui est interdit maintenant dans le nouveau cahier des charges, c'est que quelqu'un qui a installé qu'un four électrique peut le garder, mais il ne peut pas racheter un four électrique. Uniquement parce que c'est consommation d'énergie.
Ah oui, juste une chose par rapport à AB. En fait, à AB, on a oublié de vous le dire qu'il n'y a pas de cahier des charges. Je ne sais pas si... Juste pour que vous compreniez la différence entre ce qu'on est en train de vous dire et qu'est-ce qu'on peut avoir la différence par rapport à AB. C'est juste une aparté pour avoir un effet de perspective. Parce que nous, on est en train de vous parler du cahier des charges, donc des contraintes que nous, on vit par rapport au pain. Et juste par rapport au cahier des charges AB qui n'existe pas, il faut juste que les matières premières soient AB. Point barre, c'est tout. Après, on peut faire ce qu'on veut. C'est juste pour que vous compreniez le différentiel dans lequel on est à chaque fois. Nous, on est AB et Nature est prêt. Nous, on est AB aussi pour des contraintes de clientèle, des collectivités, tout ça. Et lorsqu'on passe l'audit AB, ils regardent juste les matières premières. Ils ne regardent pas comment on travaille. Enfin, ils ne regardent pas d'autres choses. Donc voilà. Et du coup, pour revenir au four à bois, donc du coup, ouais, par rapport à AB qui préconise les fours à. Les fours à. Nature et Prouvée, pardon. Nature et Prouvée. Et du coup, nous, à la Mycyclette, on est sur un four à gueulard et avec du bois qu'on utilise, du bois tout bête, et, enfin du bois tout bête, qu'on met dans le four. Et ça fait une flamme. Et cette flamme, on la dirige à droite, à gauche, au milieu, afin de chauffer le four et d'avoir une certaine température. Et donc la difficulté technique, c'est d'avoir la température adéquate au moment où les pains sont prêts à être cuits. C'est bête à dire, mais c'est pas évident. Du coup, parce que du coup, les pains ont leur vitesse de pousse, ouais, leur temporalité, alors que le four a aussi une temporalité qui est indexée à la pratique du boulanger, finalement. Mais il faut que le boulanger ait suffisamment de compétences pour que les deux se coordonnent. Et c'est ça la difficulté des fours à bois, finalement. Nous, en tout cas, à la Mycyclette, ça prend presque un an, entre un et deux ans de pratique sur un four à bois pour bien le maîtriser.
C'est sûr que ça ne simplifie pas vraiment le travail en termes de différentes cuissons. Si vous avez à cuire que du pain, bon, ok, moi je monte à 290, je mets mon pain et je suis content. Mais si vous avez différentes cuissons à faire avec de la viennoiserie, avec des choses qui requièrent une température moins haute, ça veut dire que vous allez enfourner bien après. Donc au niveau du timing, on n'a pas vraiment dans les fours à bois un thermostat. Je tourne, je vais 220 pendant une demi-heure et puis c'est bon. Donc on n'a pas cette facilité-là sur quiconque les fours électriques, au gaz ou autre. Certains fours à bois peuvent l'avoir s'ils ont une chaudière à bois indépendante avec un système de régulation, mais c'est quand même assez rare. Généralement, les fours à bois les plus courants, le boulanger doit exploiter la courbe de température du four. Donc le four arrive à une certaine température. Quelquefois, moi, je me sers pendant la montée en température d'un palier où je vois que c'est bon pour enfourner des biscuits un quart d'heure, mais il faut quand même être vigilant sur cette courbe-là. Et effectivement, il faut être prêt. Il faut que le feu soit prêt au moment où le pain est prêt, c'est clair.
Après, la grande force des fours à bois, c'est leur capacité à tenir la chaleur. Nous, il fait 80 tonnes, ce qui fait qu'il... Merci. C'est un peu le secret de ces fours, les fours que nous, on a fait construire, c'est qu'ils sont très lourds et du coup, ils gardent beaucoup la chaleur à cause de leur masse. Et du coup, on peut cuire des pains, mais juste avec la chaleur qu'on a mis pour faire cuire les pains, on peut faire plein de choses. Je sais que nous, on cuit des biscuits juste avec la chaleur résiduelle. Mais on pourrait cuire des meringues, on pourrait cuire un tas de choses juste avec une ou deux chauffes. Donc, c'est assez économe en termes de pratique. Il y a un investissement en savoir-faire en amont, mais une fois que c'est fait, c'est assez puissant comme outil, quoi.
Est-ce que vous pouvez parler du coût, par exemple, la différence entre le coût d'un four à bois et un four électrique, est-ce que vous savez ?
Non, je crois que c'est du même ordre. Pour info, un four à bois de notre... ça fait 17 mètres carrés chez nous et ça a coûté 40 000 euros, 45 000 euros. Voilà. Et un four électrique professionnel de boulanger, je pense que c'est dans ces gammes-là, voire un tout petit peu moins. Sachant que... Le cours du bois n'est pas indexé sur le cours du pétrole, alors que le cours de l'électricité, lui, il est indexé là-dessus. Le prix du bois, ce n'est pas la même chose que le prix de l'élec. Et nous, il suffit qu'il y ait une tempête, par exemple, et il y a plein de bois qui tombe, et du coup, le cours du bois chute. Ce que je ne souhaite pas, d'ailleurs. Mais voilà. Et du coup, on a une certaine autonomie, et c'est assez plaisant de se dire qu'on utilise un matériau renouvelable. Alors que notre volonté à nous, c'était pas d'utiliser de l'électricité pour tout un tas de raisons. Parce que déjà...
On peut pratiquement travailler sans électricité. Bon, hormis un peu l'éclairage à 5h du matin en hiver, mais...
Ou la machine à café.
Oui, éventuellement une balance électronique ou deux, mais potentiellement, on peut travailler sans courant. Pas très longtemps.
Ouais. Après, nous, on avait aussi une volonté de cohérence sur tous les aspects de la production. Donc,
Et donc, l'origine du bois, vous avez une idée vous avez un contrat, j'imagine, avec local ou...
Alors, le bois, il vient... Non, pas de contrat. Alors, nous, notre bois, il vient des Landes. C'est un rebut de parqueterie. Donc, c'est des gens qui achètent du bois, qui font des plateaux pour faire des parquets. Et c'est un bois qui est étuvé. C'est pour ça qu'on l'achète, enfin que notre fournisseur l'achète là-bas. Parce que c'est un bois qui est étuvé, donc il y a un degré d'humidité qui est très bas. Il est dans des grands tunnels où il y a de l'air chaud qui passe et du coup ça abaisse le niveau d'humidité. Et donc cette parqueterie n'utilise pas les côtés. Vous voyez une planche, il coupe les côtés, il ne l'utilise pas. L'entreprise avec qui on travaille les rachète, enfin les prend et les met dans des grands chariots. Nous, on est en ville, donc on a des problématiques qui sont liées à la ville. On ne peut pas démener du bois sur le trottoir parce que c'est interdit. Du coup, nous, faut que le bois puisse rentrer facilement à l'intérieur de la boulangerie sans que ça pose de problème à la voirie. Du coup, il est dans des chariots, sur des rouleaux, sur des roulettes, là. Et du coup, ça permet d'être bougé facilement et rentrer à la mi-cyclette. On fait rentrer 10 terres en 20 minutes alors que ça prend beaucoup de temps. Ouais. C'est pour ça que nous, on l'achète chez ce monsieur-là parce que c'est du bois qui est étuvé, donc qui libère énormément d'énergie. Du coup, on a des chauffes qui sont plus courtes. De l'ordre d'une heure lorsque des chauffes longues et de l'ordre de 20 minutes lorsqu'on a besoin de réchauffer. Et du coup, on paye aussi le fait que ce soit lié à nos problématiques de ville, donc le fait qu'on ne peut pas démêner le bois sur le trottoir.
Ouais, je pense que là-dessus, c'est une des limites de nos cohérences, on va dire. Où, effectivement, on a fait ce choix du bois, on a aussi eu quelques soucis avec nos voisins. Enfin, c'est vrai que la problématique d'être en ville avec un four à bois, elle est particulière et on fait de la fumée et du coup, pour des relations de bon voisinage, on a cherché un bois qui émettait le moins de fumée possible et ce genre de choses. Et du coup, c'est ce qu'on a trouvé de plus... C'est le compromis qu'on a fait. Voilà.
Ouais, pour moi, ça, le bois, il vient de la Syrie qui est à 3 km de chez moi. Quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle les fagots, donc c'est toutes les croûtes, les chutes. On a de plus en plus de mal quand même à trouver parce qu'avec le développement du bois déchiqueté. Mais enfin, on en trouve encore. Voilà. Par contre, la différence avec les collègues, c'est que moi, il n'est pas étuvé. Donc, il y a des fois, il y a 8 jours, il était encore sur l'arbre. Quoi. Enfin, il était encore droit. Et c'est un peu compliqué pour chauffer, des fois.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à d'autres aspects de la boulangerie.
Si, moi, j'avais une question. On a beaucoup parlé de l'interdiction du four à bois en ville, notamment à Lyon. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Comment ça se fait que vous avez le droit d'avoir un four à bois à Lyon?
Il n'y a pas d'interdiction, en fait. Il n'y a rien, en fait, dans l'absolu. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de... Nous, on n'a rien trouvé. Ils nous ont rien opposé, en tout cas. Ou alors, ils nous ont oubliés, ce qui est étrange.
Ils sont pas oubliés, ils sont venus nous voir.
Oui, ils sont venus nous voir, oui. Ils n'ont pas oublié. Donc il n'y a pas d'interdiction formelle, il y a peut-être des décrets qui peuvent être faits par des préfets à l'occasion, mais voilà, il n'y a pas d'interdiction, on aurait pu l'installer à Paris, je pense, ou à Lyon, il n'y a pas de... Peut-être pas Paris, mais en tout cas, sur le cas de Lyon, on n'a pas de problème, mais du coup, il faut qu'on soit vigilant sur un tas de choses et qu'on a une obligation d'être carré sur tout ce qu'on fait, nous, en ville, en tout cas.
En fait, au niveau de la loi, c'est la même loi que pour une cheminée quelconque, hein, même pour... Même quand on chauffe au gaz, on a une cheminée. Et donc c'est la même loi. Il faut être à 8 mètres de tout ouvrant. Donc il faut que la cheminée elle sorte à 8 mètres des autres fenêtres. Quoi. Si elle est plus basse que la fenêtre, si elle est plus haute, il n'y a pas cette distance. Mais après, effectivement, ça c'est la loi. Après, il peut y avoir des arrêtés préfectoraux. Et je crois qu'à Paris, effectivement, il y a un arrêté préfectoral qui interdit le four à bois. Mais après, le reste... En fait, du coup, nous, on est dans les clous. Après, c'est une relation de voisinage, quoi, en fait. Que l'adaptation. Enfin. On a eu des périodes difficiles où les voisins sont venus nous voir.
Est-ce qu'il y a une différence sur la cuisson entre un four à bois et un four électrique qu'on pourrait, nous, utiliser? Alors, vous avez une volonté d'autonomie, mais si nous, on veut faire notre pain chez nous, est-ce qu'on peut utiliser? Est-ce que vous voyez une différence sur la cuisson?
Moi, j'ai essayé dans mon four de cuisine il n'y a pas très longtemps, là, enfin, courant de l'année dernière. C'est une catastrophe parce que j'en mets trop dans le four. C'est pas évident quand même. Je pense qu'il y a une question d'inertie. Il faut que le four soit vraiment assez lourd. Donc, il ne faut pas mettre 3 ou 4 kilos de pain dans un four de cuisine, même s'il y a la place physiquement. Parce qu'il n'y aura jamais assez d'inertie pour chauffer tout ça. À une époque, j'avais essayé avec des briques réfractaires dans le four, mais bon, c'était un peu compliqué quand même pour essayer de charger un peu la bête, quoi. Mais ben, j'obtiens pas les mêmes résultats.
Ouais, nous, du coup, on va cuire à chaleur tombante, on dit. En fait, le four, du coup, quand on va fourner, il va être chaud et petit à petit, il va baisser. Donc, avec un four électrique, il faut aussi le faire de manière manuelle, on va dire, je pense. Et enfin, on voit la différence. On l'imagine peut-être plus avec des pizzas, la cuisson au four à bois, la cuisson électrique. On sait que ça n'a pas le même goût. Avec un four pour le pain, habituellement, ça joue beaucoup sur la croûte, quoi. On va avoir une croûte un peu plus épaisse avec un four à bois. Voilà. Après, on a du mal à voir, nous, quelle différence il y a, à sectoriser, en fait, d'où viennent les différences, parce qu'on a une pratique qui est différente par rapport à un boulanger conventionnel de A à Z, quoi. Donc, quel est l'élément qui fait que notre pain est différent? Je pense que le four joue.
Quand j'ai commencé, j'avais des petits fours électriques. Donc, j'avais déjà des copains qui me prenaient du pain. J'ai acheté un four à bois à chauffe direct. Et le jour, j'ai rien dit à personne, mais personne m'a fait de réflexion. Alors pour moi, le bois, c'est une énergie renouvelable. Après, sur la qualité du produit, je suis très, très sceptique. Donc, je vous encourage à faire votre pain dans votre four de cuisine, quoi. Après, conduisez-le un peu différemment, quoi. Balancez-y pas trop de l'eau dedans parce qu'il ne va pas résister longtemps. Ça, c'est par expérience que je cause. Après, les briques, c'est pas mal quand même. Si vous pouvez mettre la sole avec des briques, ça permet un peu d'inertie. Et puis, il faut faire la chaleur tombante. Donc, le thermostat, c'est vous qui baissez. Et on obtient un résultat, c'est vrai qu'il ne sera pas tout à fait pareil, mais qui sera quand même satisfaisant.
Je ne peux rien faire cuire dans le four de la cuisinière parce que j'ai l'impression que la résistance du dessous ne marche plus.
Non, c'est vrai, il y a une histoire de puissance. Hein,
c'est pas le même prix. Un matériel professionnel, vous ajoutez minimum un zéro derrière les prix, quand c'est pas deux.
Oui. Nous, on enfonde plus haut avec des fours de gazinière. Je ne sais pas si vous... On enfonde à 300 degrés, 320, 350. Une four de gazinière, ça monte à 250, 280. Après, encore une fois, vous obtenez des résultats qui sont honorables, hein, et ça dépend de ce que vous cherchez, mais pourquoi pas. Hein.
Alors, donc j'aurais une question à propos du levain. Vous faites un rafraîchi tous les jours ou presque, mais est-ce qu'il y a des périodes... est-ce que vous fermez, par exemple, pour des vacances? Est-ce qu'il y a des moments où il reste comme ça? Est-ce que... Enfin, comment vous faites quand vous le rafraîchissez pas pour le conserver?
Frigo.
Au frigo? Mais pendant combien de temps maximum?
Moi, je suis arrivé à 2 semaines, mais c'est pas mal quand même déjà. Parce qu'au bout de 2 semaines, il est pas très joli et du coup, plus? Non? Ouais, 2 mois? Ouais, 3 mois? 6 mois? Non.
3-4 semaines au frigo.
1 mois, 2 mois. Mais après, au retour, on a intérêt. Enfin, moi, en tout cas, au retour de mes 2 semaines de vacances, quand je prends 4 semaines l'été, au mois d'août, j'ai quelqu'un qui me le nourrit à mi-chemin. Et au retour, je me prévois quand même un jour ou deux pour le réhabituer.
Plusieurs rafraîchis avant de le réutiliser.
Beaucoup plus de rafraîchis qu'en temps normal. Pour que mon levain, qui a passé 15 jours au frigo, il faut quand même qu'il ait un peu de...
Et est-ce que les rafraîchis sont faits à l'eau chaude ou à l'eau froide?
Plutôt tiède, oui.
Si c'est l'été, tu peux le faire à l'eau froide. Si c'est l'hiver, tu peux le réactiver avec de l'eau tiède, effectivement. Il ne faut pas brutaliser le levain à partir de cet objectif-là. Du coup, il ne faut pas que ce soit une eau trop froide ou trop chaude. Voilà. Après, nous aussi, on a le... Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on fait sécher du levain. C'est-à-dire qu'on met des plaques, on met du levain sur une... On le faisait à une époque, on ne le fait plus maintenant. On met du levain sur une plaque et on attend que ça sèche. Et on récolte ça fait une espèce de poudre concassée. Et ça peut garder... C'est du levain déshydraté c'est le seul moyen artisanal. Et on peut le garder des années, je pense. Et on le remet dans l'eau et au bout d'une heure ou deux, ouais, c'est reparti, quoi. Parce que moi, je l'ai fait plusieurs fois et ça repart quasiment tout le temps, quoi.
Juste pour la cuisson dans les fours domestiques, il y a de très bons résultats avec des cocottes, en fait. De faire cuire le pain en cocotte, c'est, à mon avis, le meilleur résultat qu'on peut obtenir en four domestique. Si on s'y prend bien. C'est une piste intéressante. Cocotte en fonte, ouais, avec le couvercle.
Oui, pour avoir une croûte pas trop épaisse, il y a des boulangers qui ont du pain complet qui reste souple. Le dessus reste souple, alors que d'autres ont une croûte très, très dure.
Ça dépend du four, ça dépend de la cuisson, ça dépend de l'hydratation, ça dépend d'un tas de paramètres. La croûte...
Vous mettez de l'eau dans votre four
pour... Oui, enfin de l'eau, on met de la vapeur d'eau.
Oui, voilà.
Du coup...
Donc ça évite que ce soit trop dur.
La vapeur d'eau, c'est ce qui va caraméliser sur la surface. Si le four est trop chaud, ça fera une croûte très présente. Mm-hmm. Donc il y a ces deux paramètres. D'accord. On peut mettre beaucoup d'eau et avoir un four froid et du coup on n'aura quasiment pas de croûte.
Ouais.
Et avoir l'inverse. Un four très très chaud et pas d'eau et du coup la croûte sera très forte. Donc du coup, il faut coupler ces deux paramètres.
Ok.
Voilà.
Merci. Donc,
je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais...
Au niveau de l'amont, le cahier des charges donc, de cette farine AB, là, vous avez quelque chose de particulier avec Nature et Progrès
J'ai pas compris. J'ai...
Le cahier des charges de la farine biologique.
Il n'y a pas de cahier, enfin, le cahier des charges. Ils n'ont qu'une contrainte, c'est que le blé soit AB. Donc, en amont, ceux qui sont céréaliers ont des contraintes sur leur semence, je pense, pour que la semence soit AB. Mais par rapport au cahier des charges, si vous parlez juste du AB ou par rapport à NP, j'ai pas.
Mais je pense qu'en fait, ce que monsieur veut savoir, c'est si dans le cahier des charges boulanger, donc qui est un cahier des charges transformation, qu'est-ce qui est notifié quant à la provenance et la provenance des blés, de la farine. Donc en fait, chez Nature, je vous laisse répondre ou. Chez Nature et Progrès, le boulanger doit utiliser au mieux. Une farine sous mention Nature et Progrès, certifiée agriculture bio ou certifiée agriculture bio. Point. Donc c'est soit certifié AB, soit sous mention Nature et Progrès. Et effectivement, il vaut mieux acheter une farine Nature et Progrès. Il y a très peu de producteurs de blé sous mention Nature et Progrès en France. Voilà. Donc on encourage les paysans à prendre la mention Nature et Progrès voilà, pour que nos pains soient... sous mention Nature et Progrès, vraiment. Voilà. Avec même les ingrédients.
Et dans le cahier des charges, c'est aussi recommandé une recherche de favoriser les filières locales et de expérimenter les variétés anciennes. Voilà.
Ouais, merci.
Votre blé, le blé vient d'où ?
Alors moi, j'ai une partie qui, celle que j'utilise le plus, qui vient à 8 km de chez moi, un agriculteur qui fait du blé et qui fait moudre au même moulin qu'on a tous, la moulin Gribery. Donc voilà, je connais l'origine du blé. J'ai cultivé aussi, j'en cultive un peu, j'ai un petit moulin, donc j'en fais un petit peu aussi. Donc je connais un peu l'origine de mes blés. Quoi. Moi je suis à Feur, dans la Loire.
Moi j'ai une partie de mes farines, à peu près la moitié, qui proviennent d'un moulin local aussi, d'un paysan boulanger qui est dans l'Isère. À Saint-Georges d'Espérange qui me fournit en farine de blé et de seigle. Le reste, je le prends au moulin Gribory qui vient de l'Allier. C'est un moulin qui est en bio depuis 73, il y a des connaisseurs.
C'est d'ailleurs, donc nous, nos farines, elles viennent essentiellement du moulin Gribory. Et c'est d'ailleurs, il fait des farines en biodynamie. Donc on prend des farines Déméter. Et ensuite, cette année, on a eu plusieurs... en fait, nous, on a eu du mal à trouver... c'est au niveau des quantités de farine. On cherchait des farines paysannes et on a eu du mal à trouver au niveau des quantités. Et donc là, on a quelques propositions cette année. Des gens qui nous ont démarché ou nous qui avons été vers ces personnes. Donc on démarre dans une semaine. On démarre avec une nouvelle... avec une nouvelle farine qui vient sur un type de pain, là ce sera le pain aux graines, avec une farine qui vient de Châteauneuf dans la Loire. Et ensuite il y a une filière qui est en train de se construire avec le parc Miribel Jaunage. En fait il y a des incitations pour que les agriculteurs qui sont présents sur le parc ils passent en bio parce que c'est une zone de captage pour l'eau. Et du coup, ils ont un partenariat avec le moulin Marion qui est vers Mâcon. Parce qu'ils n'ont pas leur propre matériel pour moudre la farine. Ils ont pas... C'est aussi un métier, la meunerie. Voilà. Donc ils feraient partir leur blé là-bas et revenir jusqu'à chez nous. Et on a encore une autre piste qu'on va creuser là avec un paysan de Nature et Progrès justement. Qui est situé vers Vienne. Voilà. Donc j'espère que cette année, on devrait passer en partie. On n'arrivera pas à tout trouver et multiplier les sources et aussi multiplier du travail, hein, de l'approvisionnement, de gestion des fournisseurs, tout ça. Voilà.
Pour une, juste pour le label en Déméter, on se fournit en biodynamie, mais hélas, la biodynamie est assez confidentielle en ce moment en termes de céréales et du coup en termes de blé. Et du coup, le moulin qui nous fournit en, les gros volumes qu'on lui demande quand même, donc ça vient d'un peu partout en France. Donc c'est des blés qui peuvent venir de Vendée, du Sud ou du Nord. Voilà. Mais nous, on a choisi de travailler en biodynamie pour tout un tas de raisons de qualité et puis d'esprit. Ce qui fait que voilà. Et du coup, ce que disait Manu, on travaille aussi pour développer une filière sur Miribel, donc il y a une vingtaine de kilomètres. Pas que sur les blés, mais aussi sur les graines, donc sur le lin, sur le tournesol, parce qu'on utilise du lin et du tournesol. Voilà. Nous, on travaille déjà en local sur la noix, ça c'est facile. Sur la farine de châtaigne, on travaille en local, donc avec des producteurs locaux. Et voilà. Le sel, c'est à Guérande, hein. Désolé, 1000 kilomètres, mais on ne peut pas faire autrement là-dessus. Mais c'est en direct, oui. On travaille directement avec le paludier qu'on a au téléphone et qui nous livre la palette depuis Guérande à Batte-sur-Mer.
Sous mention Nature et Progrès, le sel de Guérande. Oui,
ouais. Tout à fait.
Vous aviez une question ? Attendez. Il y a un monsieur qui avait une question à poser.
Je voulais savoir l'importance des entailles que vous faites sur le pain. Si c'est un rôle ou pas ? Si c'est juste esthétique ou si c'est un rôle au niveau du travail du pain ?
Alors les grignes, c'est ce que vous appelez les entailles, c'est des grignes
très qu'on fait dessus.
Ouais, c'est ça. Ça a plusieurs rôles. C'est un rôle d'abord esthétique, effectivement, parce que du coup, quand on les grigne, enfin quand on les coupe, ça fait le pain se développe plus facilement et visuellement, ça donne des pains plus développés et c'est plus joli. Ça nous permet à nous et aux clients et aux professionnels de reconnaître aussi les pains, parce qu'on leur explique qu'il y a des codes en fait. Un trait, ça correspond à tel pain, deux traits, tel pain ou tel pain, voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres...
Et la profondeur.
Oui, ce qui est important quand même, c'est que c'est le pot... Moi, j'appelle ça le pot d'échappement du pain, quoi. Parce que si vous le grignez pas, il va éclater pas où vous voulez, c'est tout. Parce que comme il part en fermentation, il faut que ça sorte, quoi. Le gaz carbonique, il faut qu'il s'en aille. Donc la grigne permet au gaz carbonique de s'en aller. Si on ne grigne pas, ben, le pain, il éclate pas où il faut, quoi. Tout simplement.
Et la profondeur un peu des entailles que vous faites ?
La profondeur, elle dépend surtout de l'état de la pâte. Si vous avez une pâte bien ferme, vous pouvez grigner relativement profond. Si vous avez une pâte qui est assez souple, parce qu'il a fait chaud, parce qu'il a mis trop d'eau, parce que vous ne l'avez pas assez rabattu, eh ben, il vaut mieux grigner pas trop.
D'accord,
évitez
merci.
De couper en deux le pain.
J'ajoute là qu'on a un petit book de photos, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de la boulangerie La Micyclette. Voilà. Si ça vous intéresse, c'est ici.
Pour info, les pains qu'on fait circuler, donc c'est des pains de La Micyclette. C'est il y a un mélange de tournelin et de petite épeautre là. Et là, c'est parce que petite épeautre, donc n'hésitez pas à regoûter si le cœur vous en dit.
Oui. Puis-je vous demander le grain est conservé comment pour éviter les charançons, etc.
La farine pour nous ou le grain pour le céréalier?
Le grain, puis après la farine, bien sûr, mais bah,
le grain,
il doit être, il doit être conservé.
Plus Didier, je sais pas comment tu... Le grain.
Le grain, il est conservé généralement dans des cellules. Donc pour éviter le charançon, c'est le refroidissement qui est important, quoi. Ah ouais. Donc au moment de la moisson, on ventile le grain pour le refroidir. Et une période au mois de, en général vers les premières gelées, enfin au mois de novembre, quand la température extérieure est assez basse, on retourne ventiler. Et si ça est pratiqué, normalement on n'a pas de souci avec le charançon. Okay. Parce que du coup, Nature et Progrès, on n'a pas le droit d'utiliser aucun produit chimique. Donc, ouais. Par des moyens naturels, par du refroidissement, on arrive bien à maîtriser le problème du charançon.
D'accord. Oui, parce que j'ai entendu que les produits le blé est conservé dans des silos avec des produits chimiques directement.
Oui, tout à fait.
Et donc après, on mange du pain complet.
C'est pour ça, c'est ce que je voulais dire. C'est que si vous mangez du complet, mangez le bio, quoi.
Oui.
Parce que non seulement au champ, déjà, parce que le pain complet, on a toute l'enveloppe du grain. Donc l'enveloppe, s'il est traité au champ, déjà l'enveloppe, elle s'imprègne. Après, au silo.
La semence. La semence traitée.
Ça commence déjà la semence. Mais enfin bon. C'est surtout le traitement qu'il y a sur la terre, enfin au champ, quoi.
Merci.
Après, pour la farine, nous, on la reçoit en sac et du coup, on la conserve dans une salle qu'on a isolée avec un désisolant naturel afin d'avoir une température régulée, ni trop chaud l'été, ni trop froid l'hiver. Voilà. Après, nous, on a une rotation forte. Hein, tous les 15 jours, ça se vide et du coup, voilà. Je vous cache pas qu'il y a quand même l'été, il y a quand même des populations volantes un peu partout dans le... Pas trop, mais après, c'est des produits vivants. Et alors, nous, on utilise ce qu'on peut trouver dans les biocopes, là, les pièges à phéromones. Voilà. On ne peut pas faire plus, en tout cas.
Voilà. Vous avez encore 5 minutes, parce qu'il faut qu'on libère la salle bientôt.
Ah oui, vous m'avez demandé. Qu'est-ce qu'il faut penser du pain au maïs ?
Ça dépend dans quel cadre vous le mangez.
Non, mais on dit qu'il faut mieux manger du pain au maïs que le pain au blé, vu le gluten.
Alors, si c'est dans une perspective de le substituer à du pain sans gluten, est-ce que c'est du pain pur sans maïs ou...
Ouais, à mon avis, la question aussi qu'il faut vous poser, c'est est-ce que c'est du pain 100% maïs ? Et dans ce cas-là, ce n'est pas possible parce que dans le maïs, il n'y a pas de gluten, donc ça ne fermente pas. Et vous avez des galettes au maïs. Si on vous dit que c'est un pain au maïs, il y a du maïs et du blé.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de gluten que ça ne fermente pas. Ce que j'ai dit tout à l'heure, le gluten, c'est la protéine. Ce qui permet les fermentations, c'est les sucres.
Ok, alors vas-y.
Donc après, 100% maïs, c'est possible. Mais vous aurez un pain, il faudra mieux aller faire une manif avec. Quoi.
Bah, c'est ce que je disais, ça fait galette, quoi.
Oui, je suis d'accord, mais d'accord. Ce que tu disais, c'est que...
D'accord, ok. Oui.
Non, après, maïs, riz, enfin, tous les pains sans gluten n'ont pas de développement, enfin très peu, quoi. Pour moi, c'est une hérésie.
On vient de l'apprendre.
Je disais pourquoi j'ai entendu et vu sur Internet gluten de maïs. Parce que moi, j'ai mangé sans gluten pendant 12 ans. Je mangeais du maïs et je m'aperçois maintenant que...
Il y a effectivement des gens qui recherchent du pain sans gluten et sans maïs. Voilà. Ça existe. J'ai des clients qui me prennent du sans gluten. Ils me disent, tu pourrais pas enlever le maïs que tu mets dedans? Bon, j'en mets très, très peu. Mais voilà. Effectivement, mais pourquoi, je sais pas.
La question derrière moi, c'était pourquoi il y a du gluten dans le maïs ?
A priori, il y en a dans le blé, le seigle, l'orge et l'avoine. Et Didier me dit, on connaît pas tous les OGM.
Voilà, on arrive à la fin du temps imparti. Est-ce qu'il y a une dernière question subsidiaire ? Voilà.
Je voulais savoir, la farine, combien de temps elle est moulue avant que vous l'utilisiez ? Enfin, si vous le savez.
Je pense que c'est pas évident à savoir, pour être honnête avec vous. Je pense que c'est en fonction des stocks de céréales qu'il a. En tout cas, je parle pour le moulin Gribouri avec qui on travaille. Et normalement, il faut que la farine ait un peu de plancher. C'est-à-dire qu'entre le moment où il mousse son blé et que ça devienne de la farine, il faut qu'il y ait un temps de latence de 15-20 jours. Je pense que c'est assez rare, nous concernant. Il est moulu et il nous la donne direct, je pense, du coup. Et voilà. Après, nous, on a une rotation tellement rapide que ça influe sur le goût, ça influe sur la tenue, paraît-il.
C'est vrai que si on pouvait utiliser de la farine avec du plancher, qu'on appelle, ce serait bien. Mais là, moi, le chauffeur, chaque fois que je lui demande, il me dit la farine, elle a le plancher du camion.
Et pour les consommateurs, parce que vous avez une certaine rotation, mais par exemple, pour un consommateur lambda qui veut faire son pain. Chez lui, évidemment, il faut qu'il utilise une farine qui a une certaine fraîcheur ou plutôt regarder au niveau de la date de fabrication.
S'il a les moyens de le savoir, ce qui n'est pas évident, il y a une date de DLC, une date de fin de consommation, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une date de quand est-ce que ça a été moulu. Il y a une... Ah bon, c'est une date dans ce cas-là. Moi, j'ai eu écho qu'à chaque fois, entre 15 et 20 jours, ça pourrait être intéressant, quoi. Après, dépasser 2-3 mois de stockage, 3 mois de stockage, ça me paraît déjà...
Donc, je pense limite.
Les gens peuvent se tabler sur les mêmes périodes de conservation. Quoi. Entre 15 jours et 3 mois. Ça fait beaucoup, c'est une large palette.
Ok, merci. Et on va remercier Emmanuel, Rachid, Jean-Marie, Didier pour leur intervention.